Ce matin, Pascal Benne est monté à Radio Vassivière avec un chaperon rouge et un panier rempli de friandises pour l'équipe de la radio. En dessous de ce chaperon rouge, elle portait un bleu de travail fait par Chantal. Elle s'est installée sur la table de la radio. Elle a posé sa petite lampe, son petit napperon, et je crois qu'elle a prévu de nous lire une histoire. Bonjour Pascal, coucou.
Coucou, je suis très heureuse d'être près de vous ce matin et de vous lire quelques histoires qui, j'espère, vous feront plaisir. Beaucoup sont donc pleines de merveilleux et on en manque beaucoup actuellement. Et je trouve que c'est particulièrement important de vous donner des pensées par rapport à certains termes que l'on utilise parfois. On parle d'un golem et on ne sait pas ce que ça veut dire. Alors, à la fin de ces textes qui sont issus donc d'un livre de récits du ghetto juif de Prague, vous en saurez plus sur ce que c'est qu'un golem et tant d'autres choses encore.
Eh bien Pascal, je dirais, nous t'écoutons.
Bien.
Bonne lecture.
Merci Maxime. Mordechai Meisel. S'il est un nom connu des Juifs de Prague, c'est bien celui de Meisel, et ce, non sans raison. Jamais il n'y eut en effet un homme aussi charitable que lui, qui étant fait pour ses co-religionnaires avec la plus grande modestie. C'est lui qui fit paver les ruelles sales de la ville et c'est lui également qui fit construire la magnifique mairie. Prague doit à sa générosité deux synagogues, l'université et l'école qui porte son nom. Mais aussi pour le bain des femmes, devenu maintenant l'école normale, la maison des pauvres et l'orphelinat. La légende suivante nous révèle l'origine de son immense richesse. Un soir, il y a environ 200 ans, alors que le primat Rabbi Jitzak revenait à Prague au retour d'un long voyage, le cocher se perdit dans une épaisse forêt et l'attelage tourna bientôt en rond sur les chemins chaotiques. Les chevaux se figèrent soudain sur place et commencèrent à renacler et à ruer de telle sorte que le cocher et son passager prirent peur. Les deux hommes, intrigués, virent très loin entre les arbres une lumière bleutée qui brillait faiblement mais qui se transforma soudain en une montagne de feu qui illuminait les environs. Le rabbi Jitzchak, qui était un homme courageux et hardi, fit bander les yeux des chevaux et se dirigea vers l'endroit où s'élevait la flamme. Arrivé à proximité, il vit deux petits bonshommes à la longue barbe grise qui prenaient des pièces d'or et d'argent dans un brasier et en remplissaient avec zèle de petits sacs. Ils n'échangeaient pas le moindre mot et ne prêtèrent pas davantage attention à l'arrivant. Le rabbi Jitzchak les observa un instant en silence, puis il demanda « À qui sont destinés ces sacs ?»« Pas à toi, » répondit l'un des petits hommes courroucés. Il disparut, et avec lui, l'or et les sacs. Seules, quelques pièces d'or brillaient encore, disséminées sur le sol. « À quelqu'un de ton peuple, » répondit amicalement l'autre petit bonhomme. « Mais, par ta seule question, » tu as beaucoup nui à son propriétaire. » Il révéla ensuite au primat que cette fortune serait remise à son propriétaire après son mariage avec sa propre fille, et consentit à ce qu'il échangeât quelques pièces contre des pièces d'or qui se trouvaient par terre. Mais, À peine le primat eut-il jeté sur le sol 3 pièces d'or de sa bourse et ramassé en échange 3 pièces du brasier, que tout disparut. Dans l'obscurité, le primat retourna à sa voiture et apaisa le cocher en lui disant qu'il ne s'était agi là que d'un tas de charbon en feu. Les chevaux s'étant calmés, ils reprirent leur route et sortirent peu après de la forêt. Le soleil se levait quand le primat arriva à Prague. Quel pouvait donc être le propriétaire inconnu de tels trésors ? Ne cessait de se demander le primat. Ne parvenant pas à satisfaire sa curiosité, il s'en remit à la volonté de Dieu. Il enveloppa chacune des 3 pièces dans un petit morceau de papier et en jeta une par la fenêtre. Bien que la maison ait été située dans une rue large et peu fréquentée, la pièce d'or n'attira le regard de quiconque jusqu'au soir. Alors que le rabbi Jistchak s'apprêtait à faire remonter la pièce, un gamin dépenaillé descendit gaiement la rue en sautillant. Nu-pied dans ses vêtements déchirés, il s'immobilisa au pied de la maison du primat, regarda anxieusement autour de lui, fit un bond leste en direction de la pièce d'or, la ramassa et s'enfuit. Le primat secoua la tête rêveusement et murmura « En voilà un drôle de millionnaire !» Peu satisfait de la manière avec laquelle l'Éternel répartissait les richesses, il ne put attendre le lendemain pour tenter de nouveau le destin. Le même gamin vint aussitôt s'emparer de cette nouvelle pièce. « Étrange !» grommela le primat. « Un gamin aussi débraillé !»« Que peut-il donc vouloir en faire ?» Les voix du Seigneur sont impénétrables. Le lendemain, il jeta la 3e pièce dans la rue et comme il fallait s'y attendre, le même gamin vint, cette fois encore, chercher la pièce. Dans sa sagesse, le rabbi Jistchak ne doutait plus que ce fut bien là le jeune homme auquel reviendrait un jour le trésor aperçu dans la forêt. Il voulait toutefois savoir si celui-ci méritait réellement la richesse du Seigneur. Il manda à lui, l'huissier du tribunal, et lui ordonna de rendre publique la perte des pièces d'or en exigeant que celui qui les avait trouvées les rende à son propriétaire selon les enseignements de Moïse. Le primat espérait ainsi en apprendre davantage sur le caractère et l'origine du jeune garçon. Peu de temps après, celui-ci se présenta devant le primat. Il expliqua craintivement à ce monsieur de haut rang de quelle étrange façon il avait trouvé les 3 pièces d'or dont l'existence lui avait été révélée dans un rêve. Fidèle aux enseignements de Moïse, il souhaitait les rendre à leur propriétaire. Il n'était toutefois plus en possession que de 2 pièces. Il en avait aussitôt donné une à sa mère, dont le commerce n'était guère florissant, mais celle-ci la lui rendrait dès que possible. « Pourquoi n'as-tu pas gardé les 3 pièces pour toi ?» lui demanda alors le primat en souriant. « Qui aurait bien pu te trahir puisque personne ne t'avait vu ? Tu es un petit sot !» Le jeune garçon le regarda longuement d'un air surpris. « Que le Dieu d'Israël me garde d'une telle pensée, dit-il dans un élan de ferveur. Je préfère être pauvre et honnête que m'approprier quelques biens de manière proscrite. Voici vos pièces d'or. » Bouleversé, le primat s'approcha du jeune garçon, posa les mains sur sa tête et dit d'un ton solennel « Que l'Éternel te bénisse et ait pitié de toi. Tu mérites d'être le favori de notre Dieu. Dis-moi, mon fils, ne voudrais-tu pas rester chez moi ? Tu vivrais heureux en ma demeure. » « Votre grâce, cela m'est impossible, répondit le jeune garçon. Je me dois de rester à la maison pour prendre soin de mon père aveugle quand ma mère vaque à ses affaires. Qui voudrait seulement accompagner ce vieillard 3 fois par jour à la maison de Dieu afin qu'il s'y acquitte de ses prières ? Non, je ne peux pas rester chez vous, quand bien même vous me donneriez votre fortune. » Aucun étranger ne peut remplacer l'amour d'un enfant, et s'il est un commandement important à mes yeux, c'est celui qui dit « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre que l'Éternel t'accordera. » Avec bonté, le primat s'enquit du nom de son père et de sa profession. Quand il apprit qu'il s'appelait Shalom Meisel et qu'il avait été porteur jusqu'à ce que ses yeux le trahissent, il rendit les deux pièces d'or au jeune garçon. Quelques jours plus tard, réunis autour de la table, la famille s'entretenait une nouvelle fois de cet événement. Le père, quoique prisant la noblesse d'esprit du primat, dit toutefois que l'humeur des riches était « on ne peut plus versatile » et que, comme le disait déjà le roi David lui-même, il ne fallait pas se fier à la générosité des fils de la terre. Il ajouta que Mordechai, qui avait maintenant 15 ans, était suffisamment fort pour passer une corde autour de sa poitrine et porter des fardeaux, comme lui-même l'avait fait autrefois et son père avant lui. Que son fils reste pieux et intègre, et jamais Dieu ne l'oublierait dans sa miséricorde. La porte s'ouvrit à cet instant. Le rabbi Jitzchak entra dans la pièce, salua et s'assit sans façon parmi eux. Il avait à s'entretenir avec les parents, dit-il, et le jeune garçon pouvait aller rejoindre dehors ses camarades de jeu. Il se tourna alors vers le père et le pria de bien vouloir lui donner Mordechai, précisant qu'il l'élèverait et instruirait comme son propre fils. Le père, fort embarrassé, argua que l'on ne devait pas faire de commerce avec les enfants et que de ses 8 enfants, Mordechai était le seul qui lui restait. « Laissez-moi finir de parler, » répondit le rabbi Jitzchak avec empressement. « Vous pouvez garder votre fils et il pourra manger et boire chez vous. Laissez-le seulement venir chez moi quelques heures chaque jour afin qu'il y étudie et devienne un honnête homme. Votre fils ne doit pas devenir porteur, » ajouta-t-il d'une voix impérieuse. « Je me propose de faire de lui un commerçant honnête et habile. » Il me plaît beaucoup, et s'il reste aussi plaisant dans le futur, je veux lui donner ma fille unique, Soulamite, pour épouse. Sous l'effet de la joie, et surtout peu préparé à une telle requête, les deux vieux parents ne surent que répondre. Ils auraient naturellement trouvé maintes choses à redire s'ils avaient su, comme le primat lui-même, quel trésor le Tout-Puissant destinait à leur fils. Telle est la volonté de l'Éternel, qu'il vous bénisse du haut du ciel et comble vos mains de travail, répondit enfin le père. Ainsi, nous sommes d'accord, dit le rabbi Jitzchak en se levant. Mais que tout cela reste entre nous. Personne ne doit rien apprendre de la chose, ni votre fils, ni ma fille, jusqu'à ce que le temps arrive. Le Seigneur soit avec vous. Le primat s'en alla, laissant les deux vieilles gens à leur bonheur. 5 années passèrent rapidement et fort agréablement pour le jeune Meisel. Son corps était devenu plus beau et plus fort, son esprit plus savant et plus cultivé, tant si bien qu'on le considérait comme le plus affable et le plus érudit des jeunes gens. Son amour et sa sollicitude envers ses vieux parents étaient restés intacts au fond de son cœur. Il accompagnait toujours son père aveugle 3 fois par jour à la synagogue et aidait sa mère dans son petit commerce de ferraille. Soulamite était devenue une grande et belle jeune fille et le rabbi Jitzchak voyait avec une fierté toute paternelle grandir l'affection qui unissait les deux adolescents. Quand Meisel eut 20 ans, on le fiança à Soulamite, qui en avait alors 16. Cette union, on ne peut plus singulière, entre le riche et noble primat et la famille de l'humble porteur sema le trouble parmi les Juifs de Prague. Mais le primat, sachant ce qu'il savait, laissa les langues aller bon train. Un an plus tard, ce couple magnifique fut marié dans la cour de la vieille nouvelle synagogue. 8 jours passèrent et le rabbi Jitzchak estima qu'il était temps d'aller chercher les sacs d'or promis à son gendre. Il fit atteler sa voiture, appela Meisel et les deux hommes se mirent en route. Ils arrivèrent à la tombée de la nuit à l'endroit même où le primat avait eu cette vision magnifique 6 ans auparavant. Ils y attendirent en vain, presque toute la nuit. Mais ni la montagne rougeoyante, ni les petits bonshommes n'apparurent. Pas plus que l'or, qu'il fût en sac ou en tas. Contrarié, le primat prit le chemin du retour, se consola toutefois en se disant qu'il était peut-être encore trop tôt. Des semaines, des mois, des années même passèrent. Le rabbi Jitzchak retourna maintes fois en ce lieu mystérieux, mais jamais il ne vit le moindre sac d'or. Sa foi en ce miracle commença à faiblir. Le rabbin se dit qu'il avait été joué par un mauvais esprit qui avait ainsi voulu le contraindre à cette union si dommageable pour son rang. De dépit, il en devint chaque jour plus désagréable et traita dorénavant son gendre par la froideur et le mépris. Le jeune Meisel, qui n'avait pas la moindre idée des espoirs nourris par son beau-père, était fort affecté par ce comportement peu charitable. Il décida de fonder son propre foyer et de ne plus accepter le pain de son beau-père. Soulamit l'approuva et le jeune couple quitta la maison paternelle pour louer un appartement. Maïzel reprit le commerce de sa mère et celui-ci devint bientôt, grâce à son assiduité, une affaire florissante qui lui permit d'entretenir non seulement sa famille, mais aussi ses parents, tout en mettant quelques sous de côté. Il vivait ainsi heureux avec ce que le Dieu de ses pères lui avait accordé. Le temps passa et la maison de Maïzel devint le refuge des malheureux et des opprimés. Un jour, alors qu'il vaquait à ses affaires, un paysan vêtu d'un vieux sarrau apparut sous les arcades de l'échoppe pour, dit-il, acheter des morceaux de fer. Le paysan choisit ce dont il avait besoin et le posa devant lui. « Monsieur, dit-il, je n'ai pour l'heure pas le moindre argent, mais ces choses me sont absolument nécessaires. S'il vous plaît d'attendre quelque temps, je vous payerai sur mon honneur et ma conscience. » « Si ces choses vous sont à ce point indispensables, je vous les donne sans même demander d'argent. Je ne vous connais pas, mais vous ne voulez certes pas me léser. Allez dans la paix de Dieu et revenez si vous avez besoin d'autre chose, » lui répondit Meisel. Manifestement satisfait, le paysan lui proposa une bonne affaire. Il avait chez lui, dit-il, depuis de longues années, un gros coffre métallique que personne n'avait à ce jour réussi à ouvrir. Ce coffre, dont il n'avait lui-même nullement usage, il le lui vendrait au poids. Les deux hommes s'accordèrent pour 2 kreutzers par livre de fer utilisable. Et le paysan s'éloigna, ses morceaux de fer à la main. 3 jours plus tard, il arrêtait sa carriole devant les arcades. La caisse fut déchargée et amenée non sans peine sur la balance. On calcula le montant de la vente et le paysan fut très heureux qu'il lui restât encore quelque argent après qu'il eut payé ses dettes. La nuit suivante, Meisel se mit en devoir d'ouvrir le coffre avec un marteau et un burin. Mais à peine en eut-il touché le couvercle que celui-ci s'ouvrit tout seul. Il constata avec surprise que le coffre était rempli de rouleaux de papier. Il en ouvrit un premier en toute hâte et y découvrit de belles pièces d'or bien brillantes. Il sortit alors tous les rouleaux du coffre et les cacha dans un endroit connu de lui seul. Il n'en dit mot à qui que ce fût. Pas même à sa femme. Il connaissait les femmes incapables de tenir leur langue même s'il y allait de leur vie. Maïzel était dorénavant l'un des hommes les plus riches de la ville juive, mais il se garda bien de le crier sur la place publique. Persuadé que le paysan reviendrait, il se refusait à faire usage d'un trésor qu'il n'avait obtenu que grâce à la naïveté et à l'ignorance d'un paysan. Une année passa. Le paysan, dont il ignorait jusqu'au nom, n'étant pas revenu, Meisel estima alors légitime d'employer cette manne envoyée par Dieu. Il se rendit auprès du grand rabbin et lui dit « Le Dieu d'Israël m'a comblé de travail et je me propose de faire ériger une maison dans laquelle sera loué le nom de Dieu. Voici de l'or, faites appel aux meilleurs architectes afin qu'ils construisent une synagogue comme il n'en existe pas à Prague. Je vous demanderai toutefois de taire mon nom. » Le rabbin s'étonna d'une telle modestie, bénit néanmoins l'homme et lui promit de faire comme il avait demandé. Le chef-d'œuvre achevé, les gens se pressèrent de tout le pays pour admirer ce nouveau temple si fastueux, et tous louèrent le nom de ce pieux inconnu qui en avait fait don. On inaugura la synagogue par un beau jour de fête. Tous les dignitaires étaient venus écouter le discours du rabbi, discours qu'il conclut par cet appel. « Sois béni, Israël, toi qui portes de si braves gens en ton sein. Viens à moi, toi, modeste pilier de notre synagogue. Pourquoi te dissimules-tu ainsi au milieu de la foule, toi qui es l'un des premiers ?» Il tendit le bras en direction du coin où se tenait pudiquement Maïsel. « Sors de l'ombre, toi, lumière du Seigneur !» appela de nouveau le rabbi avec enthousiasme. « C'est toi que j'appelle, Mordechai Maïsel !» Un silence solennel se fit à l'énoncé de ce nom. Un léger murmure parcourut ensuite l'assemblée, murmure qui s'amplifia en un cri d'allégresse. D'innombrables mains tirèrent et soulevèrent le modeste bienfaiteur pour le mener vers les marches en haut desquelles l'attendait le grand rabbin. Maïsel regardait le sol avec humilité. Le grand rabbin posa les mains sur sa tête et lui donna silencieusement sa bénédiction. Il se leva enfin, bénit solennellement la synagogue et conclut par cette prière. « Que le ciel épargne les fondations de cette maison, jusqu'à ce qu'il te plaise, Seigneur, de rassembler tes enfants dans un temple de Jérusalem. Amen. » Le rabbi Jitzchak, qui en tant que primat avait pris place à côté du coffret de la Torah, resta un temps abasourdi par cette divine surprise. Mais dès que le grand rabbin qui avait terminé son office eut atteint le bas des marches, le beau-père, ravi, se précipita vers son gendre et le serra sans un mot contre sa poitrine. Les fidèles se pressèrent autour du primat et de son gendre pour leur témoigner leur joie et leur exprimer leurs vœux les plus sincères. La foule s'écoula gaiement hors du temple pour se rendre dans la maison du grand rabbin où un banquet attendait tous les fidèles sans discrimination. Jamais sa grande fortune ne détourna Mordechai Maïsel de sa piété et de sa modestie. Jamais il n'accepta un ministère ou un honneur, et c'est avec cette phrase que les Juifs de Prague rendent aujourd'hui encore hommage à sa modestie. « Maïsel n'a pas de siège à la synagogue ». Ce donateur inconnu qui avait fondé la synagogue tut lui-même acheter, contre une grosse somme, son siège à la synagogue. Nous avons déjà évoqué ses bienfaits, et ceux-ci sont à jamais gravés dans des versets, quoiqu'en mauvais hébreu, dans le marbre de la synagogue qui porte son nom. Sa vie fut une suite ininterrompue de bienfaits. On raconte toutefois que sa dernière heure ne fut pas la plus heureuse de sa vie. Il demanda en effet à sa femme de donner une grosse somme d'argent au rabbi Lev, au profit des pauvres du ghetto. Sa femme refusa fermement, lui gâchant ainsi sa dernière heure. Sa fortune se dissipa après sa mort. Maïsel n'ayant pas d'héritier, les services administratifs saisirent la totalité de sa fortune à leur profit. Les procès qui s'ensuivirent furent la source de bien des conflits. Mais de tout cela, Mordechai Maïsel ne sut jamais rien. Il me reste à vous dire que le ghetto, c'est le quartier de Venise entouré d'un mur dans lequel les Juifs furent confinés à l'écart du reste de la population, à partir de 1516. Plus tard, on appela ainsi le quartier des villes dans lequel les Juifs étaient tenus de vivre. Voilà donc, c'était la première histoire. Il y en aura deux autres. Voici une autre histoire de ce livre intitulé « Le golem de Prague, les récits juifs du ghetto », publié en 2004 chez Vitalis, traduit de l'allemand par Didier Debord. La plupart des histoires que je vous raconte aujourd'hui ont été écrites autour de 1515 et ensuite elles ont été retranscrites vers 1800 et en allemand. Je vais maintenant vous lire les fiançailles de Rabbi Löw. En 1513, le rabbi Bezalel ben Charim, très respecté dans la vieille ville de Worms pour sa piété, descendant de Rav Hai Gaon, fils de la branche mâle du roi David, eut un fils. Le père appela l'enfant Yehuda Löw, d'après un verset de la Bible, car il était venu au monde pour protéger les Juifs contre les mensonges et les soupçons mal intentionnés des chrétiens. Les années passèrent. À cette époque, les possibilités ne manquaient pas de faire des études rabbiniques à Worms même. Mais il était parmi les jeunes Juifs une tradition qui voulait que, fidèles aux enseignements de leur père, ils partent au loin, apaiser leur soif d'instruction auprès d'enseignants et de maîtres réputés. C'est pourquoi le jeune Yehuda partit pour Prague dès qu'il eut atteint l'âge adulte. Eyarilo Alilo. En ce temps-là, le chef de communauté de Prague était le riche et pieux Reb Samuel Schmelke Reich, plus connu sous le nom de Reich Schmelke. Quand celui-ci voulut fiancer sa très vertueuse fille Pearl, il fixa son choix sur Löw, qui, comme le voulait autrefois la tradition, fut fiancé à Pearl dès l'âge de 15 ans. À la demande de Reb Schmelke, Löw partit à Lublin, en Pologne, où il poursuivit ses études dans l'école du célèbre rabbi Salomon Lurje, qui, en tant que chef de la diaspora, était l'étoile parmi les étoiles dans le firmament des sciences hébraïques. Peu de temps après, une mauvaise affaire valut à Schmelke de perdre toute sa fortune. Il n'était donc plus à même de fournir la dot et le trousseau promis. Il écrit à Löw, qui avait entre-temps atteint sa 18e année, pour lui dire que, ne pouvant plus lui-même tenir ses engagements, Löw ne devait plus se sentir lié à sa fiancée, et que, on le lui pardonnerait, il avait le droit de prendre une autre femme pour épouse. Löw répondit, « J'espère que Dieu vous viendra en aide et j'attendrai jusqu'à ce que vous puissiez fournir la dot et le trousseau. En outre, je ne considérerai nos fiançailles comme rompues que si vous mariez votre fille. » Mais la situation financière de Reb Schmelke ne s'arrangeant manifestement pas, Pearl dut ouvrir un petit étal où elle vendit du pain, du sel et divers aliments pour soulager la misère de ses parents. Près de 10 ans passèrent. Löw ne pensait aucunement à rompre ses fiançailles. Il ne se maria pas et se consacra entièrement à ses études, ce qui lui valut le nom de Löw den Boschur. Un jour, des troupes en campagne traversèrent Prague, un officier supérieur à leur tête. Quand celui-ci passa devant l'étal de Pearl, il attrapa à la pointe de son épée une miche de pain sur le comptoir. Effrayée, Pearl se mit à crier, mais se reprenant bien vite, elle pria l'officier de lui payer le pain, expliquant combien il lui était difficile de nourrir ses vieux parents avec ce misérable commerce. Le cavalier enleva la selle de son cheval et la jeta aux pieds de la jeune fille avec ces mots. « J'ai faim, mais je n'ai pas d'argent pour payer ce pain. Prends cette selle en échange. » Quelle ne fut pas la surprise de Pearl quand elle constata que la selle renfermait une grande quantité de ducats d'or. Pleurant de joie, elle courut à la maison et expliqua à ses parents de quelle manière miraculeuse elle était entrée en possession d'une telle fortune. Reb Schmelke sut aussitôt que l'officier ne pouvait être que le prophète Élie en personne et qu'il devait à son gendre le retour de sa bonne étoile. Il écrivit aussitôt à l'œuvre pour lui dire que le ciel était venu à son secours de manière miraculeuse et il lui ordonna de venir sur le champ à Prague pour y épouser sa fille. L'Eub prit aussitôt le chemin de Prague, épousa sa pieuse fiancée, et il ne se passa guère de temps avant qu'il ne soit nommé rabbin à Posen. La 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 Rabbi Lev, le bienfaiteur des Juifs de Prague. Rodolphe II a vécu de 1552 à 1612. C'est le légendaire roi de Bohême et empereur du Saint-Empire à partir de 1576. Le Rabbi Lev ben Bezalel œuvrait depuis longtemps comme rabbin à Posen quand il fut appelé à la cour de Prague par l'empereur Rodolphe II. Il fut alors nommé grand rabbin de la ville juive, fonction qu'il occupa jusqu'à sa mort. Le Rabbi Lev, qui habitait dans la Breitegasse de la ville juive, fit graver un lion et une grappe de raisin au-dessus de sa porte pour indiquer son ascendance. À cette époque, un grand nombre de juifs immigrés de Russie et des Balkans s'établirent dans la ville, de même que des réfugiés d'Espagne et du Portugal qui avaient fui la terreur de l'Inquisition. Mais on y rencontrait également des colonialistes allemands, dont certains talmudistes de renom. À cette époque également, les Juifs de Prague voyaient s'accumuler au-dessus de leur tête les nuages noirs du destin. Ils devaient, en effet, être chassés de la ville. Le Rabbi Lev voulut intercéder auprès de l'empereur en faveur de sa communauté, mais ayant été conduit par son valet de chambre, il décida de procéder autrement. Il se mêla un jour à la foule massée sur le pont de pierre, attendit avec elle le carrosse qui conduisait le roi dans la vieille ville et lui barra la route, les bras écartés. Les curieux bombardèrent le rabbin avec des pierres et du crottin, mais celui-ci resta impassible au milieu de la route. Miracle, les pierres et le crottin se muèrent en rose et en pensée avant même de l'atteindre. Le cocher immobilisa le carrosse et l'empereur passa la tête par la fenêtre pour voir ce qu'il en était. Le courageux rabbi s'approcha de lui, fit une profonde révérence, remit sa lettre de sollicitation au roi et le pria de lui accorder une audience. L'empereur jeta un coup d'œil au document et demanda au rabbi Lev de ne pas quitter son domicile pendant les 7 prochains jours. Le 7e jour, un somptueux carrosse vint le chercher devant sa porte pour l'emmener auprès de l'empereur. Ce jour-là, le rabbin et l'empereur, entourés d'érudits et de nobles, débattirent longuement de la menace d'expulsion qui planait sur la communauté juive. le rabbi Leuve plaida pour que la clémence l'emporte sur le droit et pour que l'on épargne la communauté juive de Prague. Le jour même, Rodolphe II ordonna que l'on ne fasse plus aucun tort aux Juifs. Il ajouta que tous méfaits commis par eux devraient être portés devant un tribunal de droit commun et que l'on ne devrait plus, à l'avenir, rendre toute la communauté responsable du méfait commis par l'un de ses membres. Nombre d'histoires louèrent la sagesse et le savoir du rabbi Leuve et sa réputation ne cessa de grandir. À Prague, on eut bientôt coutume de dire qu'il était aussi sage que le roi Salomon lui-même. La bienveillance de l'empereur fut toutefois de courte durée. Plus préoccupé d'alchimie et d'astrologie que des affaires de l'État, il laissa le soin à ses conseillers de s'occuper de ces dernières. Les conseillers, qui ne portaient pas les Juifs dans leur cœur, ne perdirent dès lors plus une occasion pour dresser leur roi contre les Juifs. Lassé par les incessantes querelles et les innombrables soucis que lui causait le ghetto, l'empereur décida que tous les Israélites devaient être expulsés, sans retard, du pays. Cette nuit-là, le roi fit un rêve étrange. Il se vit lui-même traverser en carrosse une campagne désolée et ingrate. Il transpirait et ne pouvait respirer qu'à grand-peine tant il avait soif. Aussi fit-il arrêter son carrosse dès qu'il vit une rivière. L'empereur se déshabilla et entra dans l'eau pour se rafraîchir. Quand il reprit pied sur la berge, il constata toutefois que ses vêtements, et avec eux son carrosse et sa suite, avaient disparu. Affligé, l'empereur attendit la tombée de la nuit pour rejoindre son château. Il marcha toute la nuit et arriva en vue de Prague au lever du soleil. Il rencontra une équipe de bûcherons, mais ceux-ci insultèrent et chassèrent le malheureux. Un vieux mendiant, par contre, lui offrit des vêtements, et l'empereur put reprendre sa route. Peu de temps après, l'empereur vit un élégant carrosse, carrosse duquel il s'approcha pour demander de l'aide à son occupant. Celui-ci les conduit avec rudesse, disant en outre que l'empereur était bien dans son palais, puisqu'il venait lui-même de s'entretenir avec lui. L'empereur comprit soudain ce qui s'était passé. Un traître quelconque, parmi sa suite, s'était emparé de ses vêtements et se faisait maintenant passer pour lui. L'empereur chercha, mais en vain, comment sortir de cette situation. Il erra dans la capitale en proie à une grande tristesse et réalisa qu'il avait été évincé de son trône. Qui pourrait seulement croire que l'empereur qui y était présentement assis était un imposteur? Ses pieds lui faisaient mal et son estomac criait famine quand il arriva dans le ghetto. Quand il s'immobilisa devant la vieille nouvelle synagogue, le rabbi Leuve lui revint soudain en mémoire. Il consuma ses dernières forces pour se rendre chez le rabbin qui le reçut avec grande déférence. L'empereur se lava, s'habilla de propre et mangea. Puis, une fois reposé, il se tourna vers le rabbin pour lui demander conseil. Le rabbin hocha la tête et dit « Un malfaiteur retourne toujours sur le lieu de son crime. Il fera à nouveau chaud aujourd'hui, et votre double voudra vraisemblablement se baigner. Pourra-t-il seulement aller ailleurs qu'à l'endroit où sa trahison fit de lui un empereur? Quand il sera dans l'eau, il vous suffira de lui faire ce qu'il vous a lui-même fait. » L'empereur reprit espoir et promit au rabbin tous les trésors du monde. Celui le regarda toutefois avec tristesse. « Je ne veux pas de présent, mais bien davantage une faveur. Vous avez maintenant fait l'expérience de l'injustice et de l'iniquité. Ce que vous avez souffert dans la poussière des chemins, mon peuple le connaîtra, non pas une heure, mais toute sa vie. Je vous en prie, autorisez mon peuple à rester là où il se sent chez lui. » L'empereur émit de bonne grâce un nouveau décret annulant celui par lequel il avait ordonné l'expulsion des Juifs. Puis il se rendit sur les berges de la Moldau pour y attendre l'imposteur. L'attente ne fut pas longue. Son carrosse et toute sa suite apparurent à l'heure dite par le rabbin. Le traître descendit du carrosse, se déshabilla et plongea dans l'eau. L'empereur, qui n'attendait que cet instant pour sortir des buissons, ordonna alors au cocher de prendre au plus vite le chemin du château. Les chevaux avançaient comme des possédés, et le carrosse cahotait tant et si bien sur le mauvais chemin que l'empereur se réveilla en sursaut. Réalisant qu'il était dans son lit, l'empereur comprit qu'il avait rêvé. Il se leva à la fenêtre et se plongea dans ses pensées. En retournant dans son lit, il posa son regard sur la table et resta figé, comme devant un mirage. Sur la table, à côté des haillons du mendiant de son rêve, se trouvait le décret écrit et signé de sa main. L'empereur s'assit et réfléchit longuement, le regard tourné vers le sol. Le lendemain matin, il remit à ses ministres le document signifiant la suspension de l'expulsion des Juifs. C'est ainsi que le rabbi Lev sauva son peuple de l'exode. Ouscha, ouscha, beribera. Ouscha, ouscha, beribera. Tui uli, tui ule, tui uli, tui ula. Tui uli, tui ule, tui uli, tui ula. Bragadanitsa, bragadano, ho, ho. Bragadanitsa, bragadano, ho, ho. Soliti bageno, soliti bagena, soliti bageno, soliti bagena.